Nous allons parler de la révélation de l'arche de l'alliance. Pourquoi révélation? Parce que il y a une révélation qui est cachée derrière l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, par définition, est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur le sanctuaire, le tabernacle, les différentes parties du tabernacle, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Je n'aimerais pas également revenir sur l'histoire de l'Arche de l'Alliance parce qu'elle a encore fait l'objet de tout un autre enseignement. Mais j'aimerais simplement me focaliser sur l'Arche de l'Alliance elle-même. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier un instant. Père, nous te disons merci pour ta présence parce que nous savons que tu es là. Nous ne croyons pas que tu es là, Seigneur. Mais nous savons que tu es là. Et parce que nous savons que tu es là, Seigneur, selon qu'il est écrit que celui qui s'approche de Dieu et dans son cœur la preuve évidente de son existence, nous avons la preuve dans nos cœurs, dans notre âme, dans nos pensées, de ta présence dans notre vie et au milieu de ton peuple. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons parler de ta présence. Nous voulons savoir comment faire pour faire descendre ta présence. Nous voulons savoir comment faire pour restaurer ta présence au milieu de ton peuple. Seigneur, enseigne-nous les principes qui attirent ta présence. Enseigne-nous les principes qui appellent la restauration de ta présence au milieu de ton peuple. Merci Seigneur. Bénis l'écoute de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons la Bible dans le livre de Hébreux, chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1. Hébreux, chapitre 9. À partir du verset 1. La Bible déclare dans Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 1, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Alors, la Bible déclare que dans le tabernacle, il y avait deux parties essentielles. La première partie, c'était le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier, la table et les pains de proposition. Alors, nous n'allons pas rentrer dans les détails de cette première partie parce que pour ceux qui ont assisté au séminaire sur le tabernacle, on en a suffisamment parlé. Alléluia! Mais ce qui va nous intéresser, c'est la seconde partie, la dernière. La Bible déclare que derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Et dans cette partie du tabernacle, il y avait premièrement l'autel d'or. Et deuxièmement, il y avait quoi? L'arche de l'Alliance. Alléluia! Nous ne parlerons pas de l'autel d'or. Nous savons qu'il y avait deux éléments dans le lieu très saint. Il y avait l'autel d'or pour les parfums. Et là, je vous renvoie à l'enseignement sur la portée spirituelle du parfum de nard. Mais nous allons nous intéresser au deuxième élément qui est l'arche de l'alliance. La Bible déclare que l'arche de l'alliance était entièrement recouverte d'or pur. Et là, dans l'arche de l'alliance, il y a des éléments qui vont vraiment nous intéresser ce soir. Parmi lesquels se trouve, premièrement, un vase d'or contenant la manne. Deuxièmement, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et il y avait les tables de l'alliance. Alléluia. Donc ce soir, j'aimerais, selon que l'Esprit m'a mis à cœur, vous parler de trois éléments essentiels qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance. Le premier élément, c'est le vase d'or pur. Le deuxième élément, c'est celui qui est contenu dans le vase d'or pur, c'est-à-dire la manne. Et le troisième élément, ça va être la verge d'Aaron qui a fleuri. Alléluia! Je parle au chantre, je parle au peuple de Dieu. Parce que j'estime qu'en fait, nous tous, nous sommes appelés au ministère de la louange. Et lorsqu'on m'a demandé d'intervenir au cas de l'école de louange, je me suis dit, je parle à un public qui a reçu le ministère de la louange. Mais le Saint-Esprit pouvait me dire, nous tous, nous avons reçu ce ministère. Parce qu'il déclare qu'il nous a prédestinés pour servir à la louange sa gloire. Il nous a créés tous, autant que nous sommes, tous les chrétiens et tous les hommes, premièrement pour servir, donc pour exercer le ministère en faveur de Dieu. Alléluia! Parce qu'il y a des ministères en faveur des hommes et il y a des ministères en faveur de Dieu. Et les ministères en faveur des hommes, c'est le ministère d'évangéliste, le ministère d'apôtre, le ministère de pasteur, le ministère de docteur, et j'en passe. Il y a tellement de ministères en faveur des hommes. Parce qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, docteurs, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre, de l'édification de l'Église. Donc, ce sont des ministères qui sont tournés vers l'homme. Alléluia! Mais le seul ministère qui est tourné vers Dieu, le seul ministère qui est en faveur de Dieu, c'est le ministère de la louange et de l'adoration. Alléluia! Parce qu'il nous a créés pour servir à la louange de sa gloire. En d'autres termes, il nous a créés pour exercer ministère en faveur de sa gloire. Alléluia! Donc le ministère, le seul qui est tourné vers Dieu, c'est le ministère de la louange et de l'adoration. C'est pourquoi j'ai dit, je parle au peuple de Dieu, et au peuple de Dieu en général, pas seulement aux chantres et aux musiciens qui sont à l'école de louange ce soir. Amen, amen. L'arche d'alliance, c'est le symbole de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, ce thème est un thème d'une importance capitale parce qu'il y a véritablement une crise au milieu du peuple de Dieu. De la même manière que dans le monde, on parle de crise, crise sociale, crise économique, crise politique. Je dirais que dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu du peuple de Dieu, il y a une véritable crise. Et cette crise, c'est le manque de la présence de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de la présence de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'assiste plus à ce que l'église primitive a vécu autrefois, où la présence de Dieu était telle que lorsque même les inconvertis venaient, la Bible déclare qu'au travers de la manifestation de la présence de Dieu, les dons spirituels étaient libérés à tel point que tombant sur leur face, ils glorifiaient le Seigneur. Aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu, les païens entrent, ils sont là, ils écoutent la parole, ils écoutent les louanges, ils ressortent comme ils sont rentrés. Aucun changement, aucune transformation. Or, la Bible déclare que les pécheurs ne résisteront pas dans l'assemblée des justes. Et les méchants non plus ne pourraient tenir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a perdu son éclat. L'Église a perdu son impact. L'Église n'a plus d'impact au milieu de cette génération perverse. Alors que la Bible déclare que le monde entend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que le monde attend que l'Église se révèle, que l'Église révèle Christ, que l'Église montre qui est Dieu. Alléluia! Mais pourquoi l'Église aujourd'hui a du mal à avoir de l'impact dans le monde? Mais c'est tout simplement parce qu'il manque la présence de Dieu. Et cette crise est si grave que j'ai, lorsque je recevais cette révélation, ce message, reçu dans mon cœur comme un signal d'alerte, comme si le Saint-Esprit me disait, sonne la trompette sur mon peuple et interpelle sa conscience. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Le peuple de Dieu a besoin de revenir aux valeurs, aux principes qui restaurent la présence de Dieu au milieu de lui. Alléluia! On a besoin de revenir vers Dieu. On a besoin de revenir vers les voies de l'Éternel. On a besoin de s'écarter des voies que nous avons empruntées parce que ces voies nous ont écartés de la présence de Dieu. C'est pourquoi les églises aujourd'hui n'ont plus de puissance. Oh, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as peu de puissance. Et l'église aujourd'hui a besoin de la puissance de Dieu. L'église aujourd'hui a besoin de la puissance de cet esprit. Oh, la Bible déclare que l'église primitive, lorsqu'ils étaient assemblés dans le lieu où ils étaient, pendant qu'ils priaient même, ce lieu où ils étaient trembla. La Bible déclare que même les apôtres lorsqu'il se tenait au portique de Salomon, oh, les gens avaient même le peur de s'approcher d'eux. Ils avaient la crainte. La Bible déclare qu'il s'est opéré des prodiges et des miracles par les mains des apôtres. Et personne de ceux du peuple n'osait se joindre à eux à cause de la présence de Dieu qu'ils dégageaient. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, des évangélistes, des bishops qui ont des grandes connaissances théologiques, qui ont des grandes connaissances bibliques, mais qui manquent de puissance, qui manquent d'onction. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène, mais grave, où tellement il manque la présence de Dieu, tellement on est en crise de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de l'onction de Dieu, au milieu de nous, à tel point que certains même vont jusqu'à trafiquer l'onction, vont jusqu'à trafiquer la présence de Dieu par des choses, par des artifices, à tel point qu'on veut montrer que Dieu est présent au milieu de nous, alors que Dieu n'y est pas. On fait des bruits de grands tonneaux vides, on fait des bruits avec nos artifices, on fait des mises en scène, on veut montrer que Dieu est avec nous. Mais la vérité, c'est que Dieu n'est pas avec nous. Parce qu'il y a réellement et véritablement une crise de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et l'enseignement de ce matin vise à interpeller le peuple de Dieu, qui qu'il soit, que tu sois chantre, que tu sois musicien, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, docteur, peu importe le titre que tu portes, tu as besoin de revenir dans les voies de Dieu qui attire la présence de Dieu dans ta propre vie, mais également dans la sphère dans laquelle Dieu t'a donné de dominer, d'influencer, mais également dans l'église qui est le corps de Christ. Et la présence de Dieu veut être de retour dans le peuple de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, aujourd'hui encore, comme hier et comme jamais, éternellement. Alléluia! Voilà la volonté de Dieu pour son peuple. Et c'est pourquoi ce message brûle tellement dans mon cœur. Et j'aimerais vous le partager. Dieu veut nous parler de sa présence. L'arche d'alliance est le symbole de la présence de Dieu. Et je l'ai intitulé l'arche d'alliance, la révélation de l'arche d'alliance ou la restauration de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Elle déclare que dans l'arche de l'alliance, il y avait un élément, un premier élément qui va attirer notre attention. Elle déclare que dans l'arche de l'alliance, il y avait un vase d'or pur. Dis le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire le vase? Nous allons lire notre Bible dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 20. 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Alléluia. Elle déclare que dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20, nous lisons ensemble: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Dans ce passage, il est scripturellement prouvé, au travers de ce que nous venons de lire, que Dieu assimile la vie du chrétien, la vie des enfants de Dieu que nous sommes, à un vase. Et la Bible déclare qu'il y a des vases qui sont d'or, il y a des vases qui sont de bois et de terre. Et tous les vases n'ont pas la même valeur. Tous les vases n'ont pas la même utilité. Mais ce qui est impressionnant, elle déclare qu'il y a des vases d'or, qu'il y a des vases d'argile, mais qu'il y a des vases de terre aussi, mais qu'il y a des vases aussi qui sont faits d'argent. Et au travers de cela, nous pouvons comprendre qu'en fait, Dieu n'a pas la même considération pour chaque vase. Parce que chaque vase a sa valeur. Alléluia. Chaque vase a son prix. Alléluia. Et j'aimerais dire que ce qui fait la valeur d'un vase, c'est la nature de la matière qui le constitue. Or, la Bible nous enseigne que nous devons être des vases d'or pur. Parce que ce sont les vases d'or pur qui sont utiles à leur maître. Et les autres ne sont que d'un usage vil. Vous conviendrez avec moi que si vous avez dépensé beaucoup d'argent pour acheter un vase, quelque chose qui vous a coûté très cher, vous n'allez pas l'utiliser à n'importe quelle occasion. Vous allez réserver ce vase à des occasions exceptionnelles. Lorsque vous aurez des invités particuliers. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de la valeur que vous accordez à ce vase. Proportionnellement au niveau de prix qui vous a coûté. Alléluia. Et c'est comme ça également que Dieu nous traite et nous considère. Alléluia. Donc ce qui fait la valeur d'un vase, c'est la nature de la matière qui le constitue. Mais ce qui nous intéresserait encore plus à ce niveau, c'est quand même déclare que ce vase était un vase d'or pur. Et lorsque je cherche la définition du mot pur, je découvre que le mot pur veut tout simplement dire sans mélange. Ça veut dire en d'autres termes que si nous voulons être des vases utiles à notre maître, nous devons être des vases sans mélange. C'est-à-dire que d'une nature dont la matière est composée d'éléments sans mélange, d'éléments purs. Alléluia. Et Dieu dit que celui qui veut être utilisé par lui, il doit être un vase d'or pur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de crise au milieu du peuple de Dieu, quand on parle de manque de la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu dans l'église, quand on parle d'un manque d'éclat, d'un manque pacte, c'est tout simplement parce que la plupart des églises aujourd'hui ne sont plus constituées de vases purs. Il manque des vases purs dans l'église. Il manque des vases purs au milieu du peuple de Dieu. C'est-à-dire que les hommes et les femmes dont la vie est composée d'une matière sans mélange. Alléluia. On trouve malheureusement aujourd'hui dans l'église, que ce soit des fidèles, que ce soit des chantres, des musiciens, que ce soit des pasteurs ou des ministres de culte, peu importe qui qu'ils soient, malheureusement, on trouve beaucoup au milieu du peuple de Dieu qui ne sont pas purs. On trouve beaucoup de personnes qui sont pleines de mélange. Ils ont un peu du Saint-Esprit, un peu de la nature de Dieu, mais encore un peu de la nature de la chair. Oh mon frère, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un vase d'or pur, si en même temps dans ta vie, tu pries Dieu, tu chantes des cantiques, tu chantes des louanges, et en même temps tu vis dans le péché, en même temps tu vis dans la fornication, en même temps tu vis dans la pierre, en même temps tu fumes, en même temps tu bois, tu t'ivrognes, tu as des relations impures, tu as des relations avec des dieux étrangers, tu as des alliances étrangères, et tu amènes à ta maison, la maison de l'Éternel, des feux étrangers. Tu ne peux pas dire que tu es un vase d'or pur si tu as un mélange un peu de Dieu et un peu du monde. Tu ne peux pas dire que tu chantes l'Éternel si pendant que tu es à l'église, tu chantes, oh la voix est belle. Mais quand tu repars au quartier, à la maison, ta vie est complètement différente. De la même bouche, tu bénis Dieu. De la même bouche, tu injuries les gens. Tu maudis les gens. Tu critiques. Tu calomnies. Tu jalouses. Tu sors de grossièretés. Tu ne peux pas être un vase d'or pur. Tu ne peux pas être utile à ton maître. Il y a des groupes de louanges aujourd'hui. Sous prétexte de vouloir attirer les jeunes, se mettent au style, à la mode. Adoptent des concepts du monde, des styles de musique, des mélodies même. Parfois, il y en a même qui prennent des mélodies chantées dans le monde pour vouloir simplement enlever les paroles et mettre des paroles bibliques. Parce qu'on veut toucher les gens du monde. Donc on va chercher dans le monde les choses qui sont dans le monde. On les amène à l'église. On enlève juste un peu leurs paroles. On met des paroles bibliques. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est ainsi qu'on va gagner des âmes. Je vais te dire ce soir, même si tu as attiré des âmes dans l'église avec de telles méthodes, je t'assure que Dieu n'est pas présent. Dieu n'est pas là-dedans. Et c'est comme ça qu'on assiste à des conversions, je dirais, prématurées. On a des prématurés, des enfants mal nés, des enfants déformés en Christ. Et qui sont difficiles à redresser après. Parce qu'il y a des prématurés, des naissances prématurées en Christ. Il y a également des malformations chrétiennes dans la foi. Et c'est pourquoi les pasteurs parfois ont du travail, du boulot dans les églises pour redresser les mentalités, pour redresser les esprits, pour redresser les âmes. Parce que tout simplement, il y a des mauvaises conversions dues à un mélange à la base. Tu es chant de l'Éternel aujourd'hui. Décide de chanter des chants sans mélange. Décide de faire monter vers Dieu une louange sans mélange. Tu es musicien, décide de jouer des sons à la gloire de Dieu qui soit sans mélange. Parce que voyez-vous, David dans les psaumes pouvait dire, au son de ma harpe et de ma huth, l'Éternel descend. Parce que notre son de guitare, notre son de piano touche le cœur de Dieu. Dieu s'intéresse aussi à notre instrumentation. Parce que la musique, voyez-vous, a été à l'origine de la création même de Dieu. Et bien, quand lorsque Dieu créait le ciel et terre, en ce moment-là même, une chorale céleste éclatait en chant de triomphe. C'est-à-dire que l'œuvre de la création même, elle-même, a été accompagnée par la louange, par la musique céleste. Et cette musique était une musique avec mélange, aujourd'hui, la création ne serait pas aussi belle. Mais parce qu'elle était pure, elle était céleste, elle était divine, elle était spirituelle, alors aujourd'hui, nous pouvons au travers de la création contempler la gloire et la magnificence de Dieu. Alléluia! Car la création elle-même rend témoignage de Dieu, de ce qu'il est, de sa grandeur. Alléluia! Dieu veut des vases sans mélange. Et les églises aujourd'hui, ils adoptent des systèmes dans le monde. Ils amènent ça à l'église pour vouloir gérer l'œuvre de Dieu. On ne peut pas diriger l'église de Dieu. On ne peut pas gérer l'œuvre de Dieu avec les concepts du monde. C'est pas possible. Non, je ne peux pas le concevoir. Parce que imaginez qu'un jour, dans le ciel, les anges se mettent à regarder ce que les gens du monde font sur la terre. Les enfants de Satan, de ce siècle. Et qu'ils voient qu'ils aient des belles mélodies, qu'ils ont des beaux chants, des beaux pas de danse, qu'ils ont des beaux systèmes, des beaux concepts. Et qu'ils se disent, ah, imaginez-vous, qu'ils se disent, c'est intéressant. Alors nous allons prendre ce nouveau pas de danse qui est sorti sur la terre. Et nous allons essayer de surprendre Dieu. Nous croyons qu'il sera agréablement surpris. Parce que c'est une nouveauté. C'est à la mode. Vous pensez que ça va être agréable à l'Éternel? Dieu ne pourra jamais agréer un tel sacrifice. Alléluia. Parce que Dieu veut une louange sans mélange. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible qui m'a fortement interpellé. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans 1 Roi chapitre 14 verset 25 à 28. Dans ce passage, la Bible nous relate l'histoire d'un roi qui s'appelait Roboam. Roboam était le fils de Salomon. Roboam, il a régné sur Juda, il avait 41 ans. Et il a régné 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. La Bible nous dit que le peuple de Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Les habitants de Juda se livrèrent à la prostitution et à l'idolâtrie en bâtissant des hauts lieux pour des dieux étrangers. À cause de cela, l'Éternel va permettre que chaque roi d'Égypte monte contre Israël. Alors, ce roi d'Égypte, il rentre dans la maison de l'Éternel en Israël. Il prend les trésors de la maison de l'Éternel. Il prend tout ce qui était dans la maison de l'Éternel. Il prend même les boucliers d'or que Salomon avait fait. Alors, devant cette désolation, le roi Roboam va essayer de préparer la situation en remplaçant les boucliers que Dieu avait mis, qu'avait ordonné de mettre dans le temple, qui ont été pris par le roi d'Égypte. Donc, le roi Roboam va essayer de remplacer ces boucliers par des boucliers d'airain. Or, en faisant quelques recherches, je découvre que l'airain est une matière qui est en fait la résultante d'un mélange entre le zinc et le cuivre. Donc quand on prend le zinc, qui est une autre matière, un métal, et le cuivre, on mélange, ça nous donne l'airain. Et l'airain a l'apparence d'or pur, mais en réalité ce n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Et pour pallier la situation, Roboam va prendre des boucliers et des reins pour les placer dans le temple. Parce que cela ressemblait à ce qu'il y avait auparavant. Or, qu'est-ce que veut dire l'or? Elle déclare que lorsque Moïse a fini de construire le tabernacle, il a recouvert le propitiatoire, c'est-à-dire que le couvert qu'il y avait sur au-dessus de l'arche d'alliance, il a recouvert donc le propitiatoire d'or pur. Elle déclare que lorsque Moïse eut achevé son ouvrage, la gloire, ce qu'il a de Dieu, remplit le temple. Au point que Moïse lui-même ne pouvait s'approcher pour faire le service. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit pouvait m'interpeller en disant que l'or pur, c'est le symbole de la sainteté et de la pureté. Alléluia. Or, l'airain n'était pas pur. L'airain était un mélange de deux métaux qui donnait l'apparence d'or pur, l'apparence de sainteté, une apparence de pureté, un certain éclat dans la maison de Dieu, mais qui en réalité n'avait rien à voir avec la véritable sainteté de Dieu. En réalité, n'avait rien à voir avec la véritable pureté qui provient de la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais vous dire ce soir, peuple de Dieu, Jésus a dit que heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Seule la pureté attire la présence de Dieu. Seuls les cœurs purs peuvent entrer dans la présence de Dieu. Et s'il y a un premier principe que j'aimerais établir pour nous permettre de restaurer la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est la pureté. C'est le sans mélange. Le peuple de Dieu, l'Église, a besoin de revenir sur les voies de Dieu, de marcher sur les principes sans mélange et des principes qui attirent la présence de Dieu. Alléluia! On a besoin de se séparer des concepts mondains, des concepts de ce monde, des systèmes de ce monde, des valeurs de ce monde, des choses de ce monde complètement séparées afin de pouvoir favoriser l'éclosion de la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia! Parce que sans la pureté, aucune église ne verra Dieu. Aucun peuple ne pourra voir la présence de Dieu au milieu de lui. Nous avons besoin de restaurer la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia! Et le premier principe, c'est la pureté et la sainteté de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur, des vases purs, sans mélange. Alléluia. Vous voyez, Roboam, le pauvre, il a essayé de tout faire. Il a remplacé l'or pur, même si il a remplacé l'or pur par de l'airain. Mais voyez-vous que même si cela était semblable et paraissait identique, la présence de Dieu n'était pas là. Le peuple continue à aller au temple, mais la présence de Dieu n'y était plus. Ceci nous amène à comprendre qu'au-delà de nos bonnes intentions, en voulant faire des méthodes pour attirer la présence de Dieu, nous ne devons pas remplacer les choses que Dieu a établies dans sa maison par des choses qui proviennent du monde. Encore moins faire un mélange. Car même si cela paraît beau et attrayant, la présence de Dieu ne viendra pas au milieu de son peuple. Alléluia! Malheureusement, de nos jours, aujourd'hui, beaucoup de responsables, qu'est-ce qu'ils ne font pas pour vouloir attirer la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ne font pas pour vouloir attirer des âmes dans l'église? Mais Dieu m'a parlé pendant que je préparais ce message. J'avais une telle crainte dans mon cœur. L'Esprit me disait, tu es pasteur, Sosten. Garde-toi du mélange. Ne cherche pas à attirer les âmes dans ton église, mais cherche à attirer ma présence. Quand tu auras trouvé les principes qui attirent ma présence dans ton assemblée, ma présence elle-même attirera les âmes dans ton assemblée. Alléluia! Cherchons à attirer la présence de Dieu. Et la présence de Dieu elle-même attirera les âmes. Cherchons à attirer la présence de Dieu dans notre louange, dans notre adoration. Et la présence de Dieu elle-même attirera les cœurs vers lui. Alléluia! Le vase d'or pur. Alléluia! Mais la Bible déclare aussi que dans l'arche de l'Alliance, il n'y avait pas que le vase d'or pur. Parce que seulement même dans le vase, il y avait ce qu'on appelait la manne. Oh, alléluia. La manne, vous connaissez l'histoire dans le désert. Le peuple de Dieu a murmuré contre Moïse parce qu'ils avaient la nostalgie de leur passé. Comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup ont encore la nostalgie de leur passé mondain, au point qu'ils ont encore tendance à retourner le monde pour reprendre des choses et les amener à l'église de Dieu, parce qu'ils estiment que en le faisant, ils vont attirer la présence de Dieu, ils vont attirer les âmes. Mais le même problème se pose dans le désert. Le peuple de Dieu murmura contre Moïse. Il est venu nous sortir de l'Égypte. Nous étions bien, nous mangeons les concombres parce qu'ils avaient faim. Alors Dieu va dire à Moïse, voici, fais telle chose, je vous passe le détail. Et Moïse va faire exactement ce que le Seigneur lui a prescrit. Et il déclare, à l'heure même, tout le matin, Dieu va faire descendre le pain du ciel. Alléluia. Et la Bible nous révèle que la manne est le pain descendu du ciel. Alléluia. Mais ce qui est impressionnant, c'est que quand vous lisez la parole de Dieu, il est écrit que tôt le matin, une fraîche rosée a recouvert le sol. Cette fraîche rosée qui a recouvert le sol, alléluia, a produit des boules blanches. Et ces boules blanches étaient le pain descendu du ciel. Il y a un passage dans la Bible qui me revient à l'esprit. La Bible déclare que, scripturellement, il est prouvé que la rosée, c'est le symbole du Saint-Esprit. Or, il est écrit que l'ange apparaît à Marie et lui dit, un fils naîtra de toi. Et Marie lui dit, mais je suis vierge, comment pourrais-je enfanter? Je n'ai point connu d'homme. Et la Bible déclare que l'ange va lui dire, ne t'inquiète pas, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia! La Bible déclare que la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Une fraîche rosée a recouvert le sol. Et le pain est sorti de la terre. La puissance du Très-Haut va recouvrir Marie. Et le pain du ciel va sortir de son sein. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Et c'est ce qui prouve que Jésus-Christ est le pain descendu du ciel, la manne prophétique dont il s'agissait dans le désert avec Moïse. Alléluia. C'est pourquoi il déclare que je suis le pain de vie. Alléluia. Jésus est le pain descendu du ciel. Alléluia. Jésus est le pain de vie. Parce que la même manière que la rosée a recouvert le sol et que le pain est sorti de la terre, la même manière la puissance du Saint-Esprit a recouvert Marie. Et Jésus, le pain de vie, est descendu du ciel. Alléluia. 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 La manne. La manne, c'est le symbole de la parole de Dieu. Elle déclare que Jésus est la parole de Dieu. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est venue dans le monde. Et le monde n'a point connu. Mais à tous qui ont connu, à tous qui croient en son nom, cette même parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de l'esprit de la chair, ni du sang, mais qui sont nés de l'esprit de Dieu. Tu es chantre, tu es musicien, tu es chrétien, peu importe qui tu sois, pasteur, évangéliste, tu as besoin de manger la manne. Tu as besoin de manger le pain de vie descendu du ciel. Tu as besoin de manger de ce pain. Quotidiennement, combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ne lisent plus la parole de Dieu? Combien de pasteurs ne lisent plus assez la parole de Dieu? Oh, ils se contentent de leur connaissance du passé et ils viennent prêcher des choses qu'ils ne vivent pas. Ils n'ont pas d'expérience, mais ils s'appuient sur les expériences du passé ou les expériences des autres pour apporter un message. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mangé le pain de vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui vivent dans l'échec? Combien de chrétiens aujourd'hui vivent dans la souffrance, sous le joug de la puissance de Satan, de la malédiction, de la maladie, des problèmes de tout genre? Mais tout simplement parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. En France, c'est le pays où est le taux le plus élevé de suicide. Parce que les gens sont stressés, les gens sont angoissés, les gens sont broques à l'intérieur. Ils ont des problèmes. Il y a beaucoup de cliniques psychologiques. Il y a beaucoup de cliniques. J'ai passé un jour, juste en face, une clinique de la gestion du stress. Et c'est un peuple stressé. En France, les gens sont stressés. Le train de vie qui va très vite, l'évolution technologique et des problèmes de tout genre liés aux sociétés industrielles et développées ou encore évoluées. Mettez le mot que vous mettrez, que vous voulez derrière. Mais il y a un grand problème. C'est que ce peuple est malade dans son cœur. Et les églises aujourd'hui en France sont caractérisées de cas sociaux, de problèmes dans la tête, dans la mentalité. Tout simplement parce que le peuple de Dieu n'apprend pas à lire la parole de Dieu, n'apprend pas à aimer la parole de Dieu. Et même quand ils la lisent, ils ne l'affectionnent pas. Oh, la déclare que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheur, qui ne s'arrête pas à comprendre mon cœur, mais qui trouve son plaisir, qui affectionne, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se fait point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia! Et les gens ne marchent pas dans le succès, ne marchent pas dans la réussite, ne marchent pas dans la prospérité, tout simplement parce qu'ils ne se tournent pas vers la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne la mettent pas en pratique même quand ils la lisent. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne soit le point de ta bouche, mais le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et que tu auras du succès. Alléluia. Et le peuple de Dieu aujourd'hui est devenu adepte des bishops. On court vers les bishops, on court vers les grands pasteurs, les grands évangélistes pour chercher l'onction, pour chercher la prière, pour chercher la délivrance, pour chercher la guérison. Or la Bible déclare, marche, lis la parole de Dieu, marche fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors tu veux la réussite, la prospérité dans les entreprises, au niveau du travail, au niveau de l'école, partout dans la société, c'est pas le bishop qui va te la donner. Il priera pour toi, il va t'aider pendant un temps, mais après tes problèmes vont revenir. Le problème c'est pas à son niveau, ni au niveau de Dieu. Le problème c'est à ton niveau, à toi. Tu as besoin d'intégrer dans ta vie les principes et les valeurs de la parole de Dieu. Tu as besoin d'aimer la parole de Dieu, de la lire quotidiennement, de la méditer. Pas forcément parce que tu vas la comprendre. Parce que Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance qu'il y a dans les Écritures. Donc dans les Écritures, il y a deux aspects. Premièrement, les Écritures, donc l'aspect scripturaire. Et deuxièmement, il y a la puissance qui est cachée dans les Écritures. Alléluia! Donc quand tu lis la parole de Dieu, que tu la comprennes, que tu ne la comprennes pas, tu es au moins en contact avec la puissance qui est dans la parole. Tu es moi en contact avec l'énergie qui qui est dans la parole de Dieu. C'est-à-dire l'esprit de la parole qui te pénètre au moment où même tu la lis, même quand tu ne la comprends pas. Cet esprit-là te pénètre l'être intérieur. Cet esprit pénètre, l'esprit de la parole pénètre ton âme, pénètre tes pensées, pénètre ton être intérieur. Et sans que tu le saches, et sans même que tu ne comprennes ce que tu lis, cet esprit-là, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de la parole, opère une œuvre en toi. Et c'est l'œuvre de la transformation, c'est l'œuvre de la sanctification. Parce qu'il nous sanctifie, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia! La parole de Dieu nous sanctifie. Mais comment? Par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous affranchit. Mais comment? Par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous libère. Comment? Par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous conduit à la prospérité. Comment? Par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous conduit à le miracle, la guérison. Comment? Par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu pour être en communion avec le Saint-Esprit, l'Esprit de la parole. Alléluia! En tant que chante, en tant que musicien, je vous interpelle à aimer la parole de Dieu. La manne, le pain de vie descendu du ciel. Alléluia. Nous allons lire ensemble. Alléluia. Dans le livre de Exode, chapitre 16, versets 11 à 15. Exode, chapitre 16, versets 11 à 15. Avant de passer à la dernière étape. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit : J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous ramasserez du pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Alléluia ! Le pain descendu du ciel, la rosée qui recouvre le camp, la terre, comme le Saint-Esprit qui recouvre Marie. Alléluia. Mais la manne aussi, vous allez le lire, c'est le symbole de l'épreuve. Parce que Dieu va dire dans ce même passage, vous le lirez chez vous, que la même manière que vous avez murmuré, vous allez manger ce pain maintenant. Vous allez manger cette viande, parce que maintenant vous allez être éprouvé. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chantre, vous allez amener à être éprouvé. Dieu va vous éprouver. Parce que la parole même de Dieu elle-même, elle a été éprouvée. Pour qu'elle soit trouvée pure comme de l'or. Mais votre capacité à sortir de l'épreuve va vous qualifier à la face de l'Éternel dans votre ministère. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'aime plus être éprouvé. La moindre épreuve, ça y est, on repart dans le monde. On commence à blasphémer. On commence à maudire les frères. On commence à critiquer le pasteur. On commence à critiquer les responsables. On commence à maudire Dieu. Mais si tu veux servir Dieu, tu dois accepter de manger la manne, le pain de l'épreuve. Tu dois accepter d'être éprouvé. Parce que c'est par l'épreuve que Dieu saura réellement ta véritable valeur. Parce que, voyez-vous, si on ne presse pas le pressoir, l'huile ne sortira pas. Alléluia. Dieu va vous presser. Il va vous presser. Tu es chanteur, tu es musicien, tu veux être appelé ou tu te sens appelé, tu veux servir Dieu, c'est une bonne chose. Tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu ressens un appel, c'est une bonne chose. Mais sache une chose, c'est que pour que l'onction, pour que l'huile de l'onction coule de ta vie, Dieu va presser le pressoir de ta vie. Alléluia. Afin que l'huile coule. Il n'y a pas d'onction sans pressoir. Comme il n'y a pas d'huile sans pressoir. Si on ne presse pas, l'huile ne coule pas. Dieu va te presser pour que l'huile coule. Alléluia. Afin que lorsque tu élèveras ta voix pour chanter, oh bien-aimé, que les malades soient guéris, que les cœurs affligés soient restaurés, que les cœurs brisés soient guéris, que les paralytiques se lèvent, que les muets parlent, que les sourds entendent. Voilà la dimension à laquelle Dieu veut t'amener. Chante l'Éternel. Alléluia. Que quand tu touches à ton instrument en tant que musicien, qu'au son de ta guitare, les cœurs fondent sous la repentance. Qu'au son de ton piano, les larmes sortent des yeux pour demander pardon à Dieu pour leur péché. Que les gens reconnaissent leur état de péché. Que les cœurs se convertissent. Mais pour que tu arrives à cette dimension d'onction,
Dieu va te presser.
Il va te presser. Tu mangeras le pain, la manne, le pain de l'épreuve. Et si nous voulons rétablir et la présence de Dieu au milieu de nous, peuple de Dieu, il nous faudra mettre dans le vase qui est notre vie, la manne. La manne. On a besoin de mettre dans le vase la manne. Parce que dans l'arche, il n'y avait pas seulement le vase, mais il y avait également la manne qui était contenue dans le vase. Dieu a besoin de mettre sa parole en toi. Que la parole éternelle, alléluia, habite abondamment en toi. Entretenez-vous, exhortez-vous par des cantiques, des psaumes, des cantiques spirituels. Chantez et s'élevant tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Dieu veut faire habiter sa parole en toi. S'il n'y a rien en toi, tu ne vas rien donner. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant vers la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais Hébreux chapitre 9, que nous venons de lire, nous révèle que dans l'arche de l'alliance, il n'y avait pas que le vase, il n'y avait pas que la manne, il y avait aussi la verge d'Aaron qui a fleuri. Et nous allons terminer avec cet aspect. La verge d'Aaron qui a fleuri. Alléluia. Exode chapitre 7, verset 11 à 12. Exode 7, verset 11 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égyptiens, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Nous allons lire dans Deutéronome. Alléluia. Plutôt dans Nombre, chapitre 17. Nombre, chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur la verge, sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai casser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges comme les 12 tribus d'Israël. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Alléluia. Alléluia. Elle avait fleuri et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils les prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne se meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt, nous faudra-t-il encore tous expirer. Alléluia. Au travers de ce passage, nous comprenons donc pourquoi la Bible déclare que la verge d'Aaron avait fleuri. Le problème, c'est que Il y avait contestation. Il y avait contestation au milieu du peuple. Cette contestation a entraîné donc une remise en cause de l'autorité de Dieu. Et pour rétablir le principe d'autorité, Dieu a demandé à Moïse de réunir les 12 tribus d'Israël. Et Dieu voulait montrer au milieu des 12 tribus d'Israël quelle est la tribu qu'il avait choisie pour le service. Et quel était le leader qu'il avait établi au milieu de son peuple. Alors nous voyons que les 12 tribus des 12 verges qu'il y avait, seule la verge d'Aaron avait fleuri. Non seulement avait fleuri, mais elle avait même mûri des amandes. Alléluia. La verge est le symbole de l'autorité de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Et si nous venons, nous voulons ramener la présence de Dieu au milieu de son peuple, nous avons besoin de restaurer le principe de l'autorité divine. Nous avons besoin de restaurer le principe de l'autorité de Dieu. Nous avons besoin de revenir aux valeurs qui élèvent l'autorité de Dieu. Combien de chanteurs, de musiciens veulent travailler dans les églises, mais sans être soumis à leur autorité spirituelle. Ma soeur, mon frère, tu peux avoir une belle voix, tu peux avoir de grandes connaissances musicales, tu peux être talentueux, tu peux être habile, tu peux être vraiment quelqu'un, mais quand on te voit, quand on t'enchante, on dit oui, il n'y a pas d'eux sur la terre. On a l'impression que la chorale céleste est descendue, que le chef de la chorale céleste est là avec toi. Tu peux avoir toute la connaissance, la plus belle voix du monde, connaître jouer tous les instruments, mais tu as besoin d'être sous la couverture d'une autorité spirituelle. Si tu veux que ton ministère aille de l'avant et aide l'éclosion, tu as besoin de reconnaître l'autorité que Dieu a établie sur toi. Tu as besoin de la respecter. Tu as besoin de l'honorer. Tu as besoin d'être soumis à l'autorité. Parce que pourquoi la verge d'Aaron a été mise dans l'arche? La Bible déclare que ce sera un signe, un symbole pour les générations et les fils de la rébellion. Donc toutes les générations qui entendront parler de l'arche de l'Alliance connaîtront la verge d'Aaron. Pourquoi? Parce que Dieu veut rappeler à son peuple le principe de l'autorité. Lévi, c'est la seule tribu qui était qualifiée pour exercer le culte, pour faire le culte. Or, le culte, c'est quoi? Le culte, c'est la louange, l'adoration. Vous êtes appelé à ce ministère. Gloire à Dieu. Mais vous devez savoir que ce ministère a été donné à la tribu de Lévi au départ. Donc, vous avez besoin de reconnaître l'autorité, le principe d'autorité divine qui découle de ce ministère. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai remarqué que beaucoup de personnes aujourd'hui ont les connaissances, ont l'onction à un certain niveau, bien sûr, dans certaines mesures. Mais il leur manque de l'autorité spirituelle dans leur vie. Un enfant de Dieu qui n'arrive pas à prendre autorité sur sa vie, sur les situations qu'il vit, un Dieu qui est toujours dépendant, qui est toujours en train de pleurer, en proie aux difficultés, aux problèmes, à la maladie, en proie aux démons, toujours des rêves bizarres, toujours en train de raconter que oui, j'ai vu tel en rêve, c'est le grand-père, c'est l'oncle, c'est le cousin de l'oncle, la tante de ma mère. Il est venu me parler ceci, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, et toute leur vie est perturbée. C'est des gens qui ne sont pas épanouis, c'est des gens qui ne sont pas heureux. Quand vous les voyez, tout le temps, toujours en train de parler de ce que le diable fait dans leur vie. Ce genre de chrétiens ont un problème d'autorité spirituelle. Ils ont besoin de comprendre que pour attirer la présence de Dieu dans leur vie, ils doivent restaurer le principe d'autorité spirituelle. Ils ont besoin de saisir le bâton. Voyez-vous, quand on établit un roi, on lui donnait un bâton. Pourquoi? Parce que le bâton est le symbole d'autorité. Voyez-vous, même les bergers avaient un bâton pour paître le troupeau. Tu ne peux pas, pour le peuple de Dieu, si tu n'as pas d'autorité. Tu ne peux pas être chantre et diriger le peuple de Dieu à louange, à l'adoration. Te manque l'autorité. Tu ne peux pas attirer l'onction de son peuple. Lorsque les démons vont se déchaîner pour vouloir contrecarrer ou mettre des obstacles à ta louange, on a parlé des obstacles à la louange. Il y a des obstacles spirituels à la louange. Comment ferais-tu en tant que chantre, en tant que musicien, pour dégager l'atmosphère spirituelle si tu n'as pas l'autorité spirituelle? Si tu n'as pas le bâton, la verge d'Aaron entre tes mains, comment feras-tu? Parce qu'il y a des moments, l'onction de Dieu va descendre dans la salle. Pendant que tu seras en train de diriger, de conduire la louange, l'onction de Dieu va descendre, ça sera tellement fort. Mais à un moment donné, il peut arriver, il passe par quelqu'un dans la salle qui va déclarer, qui va vouloir casser l'onction. Tu as besoin en ce moment-là, en tant que conducteur de louange, en tant que chantre, en tant que sacrificateur, de te saisir du bâton pour redresser la cause et ramener l'onction dans la présence de Dieu. Alléluia! Et vous serez confronté en tant que chantre à des difficultés, à des obstacles dans la conduite de la louange, l'adoration. Comment faire pour redresser la situation et pour maintenir l'atmosphère spirituelle? Ou comment faire quand tu as dirigé une réunion et qu'il y a des blocages, tu as du mal à décoller? C'est dur. Le ciel semble terrain. L'atmosphère semble lourde. Le peuple de Dieu a du mal à décoller. Les chants qu'on a l'habitude de chanter, qui sont souvent pleins d'onction, ce jour-là, c'est vide. C'est vide. Tu as l'impression que quand tu ouvres ta bouche, tu as des démangeaisons même. Le peuple de Dieu ouvre la bouche, chanter, personne ne chante. Tu es là, tu dis, oh Seigneur, comment tu vas faire si tu n'as pas entre tes mains la verge d'Aaron? Tu es musicien, tu es guitariste, en pleine dimension d'effervescence, de louange, d'adoration, dans la joie, dans l'euphorie, la louange, la gloire de Dieu. Une corde, la guitare se casse. Tac. Comment tu vas faire si tu n'arrives pas à gérer tes états d'esprit, tes états d'âme, tes émotions avec le bâton de l'autorité, la verge d'Aaron, pour dire, mon âme bénit l'Éternel. Pour parler à ton âme et parler aux circonstances, comme Jésus a parlé aux circonstances. Pour rester dans la paix, comme Jésus dormait au milieu de la tempête. Oh, j'aime bien mon épouse. C'est difficile de savoir, pendant qu'elle est en train de diriger, parce que vous savez, il y a une différence entre diriger et la louange, et conduire la louange. C'est le Saint-Esprit qui dirige. Alléluia. Et vous, vous ne faites que conduire. Alléluia. Donc, pour conduire, il faut un bâton. Alléluia. Comme le berger conduit le troupeau avec un bâton. Et le bâton, c'est la verge d'Aaron. Alléluia. Alléluia. Comment ferais-tu pendant que tu es en train de conduire la louange? Et elle, rares sont les fois où je me suis aperçu que pendant que la corde de sa guitare s'est cassée. Mais elle continue sur le même tempo, dans la même dimension, imperturbable, tranquille, comme si tout allait bien. Tout va bien. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il suffit d'un rien pour te déconcentrer, pour te perturber et pour te déconnecter de la présence de Dieu. Vous aurez beaucoup d'obstacles dans votre ministère de chantre. Mais vous avez besoin de la verge d'Aaron pour rétablir les principes de l'autorité, pour restaurer la présence de Dieu et de son peuple, pour redresser les circonstances qui tanguent, qui se penchent. Une réunion qui commence à dérailler, qui commence à dévier. Vous avez besoin de la verge d'Aaron pour redresser les choses, pour dégager l'atmosphère spirituelle. Alléluia. Pour conduire le peuple de Dieu jusque dans le lieu très saint. Parce que le chemin qui vous conduit dans le lieu très saint n'est pas toujours parchemé ou pavé d'or. Il est parfois pavé d'obstacles pour arriver jusqu'au lieu très saint. Ça va être difficile. Déjà pour passer de l'extérieur, comme le disait le frère tout à l'heure, pour arriver au parvis déjà, c'est difficile. Parce que le diable ne veut pas que tu entends la voix de Dieu. Donc il va te maintenir hors même du parvis. Donc derrière là-bas, la cour extérieure là-bas. Mais quand quelqu'un a réussi à rentrer dans le parvis, c'est une victoire. Alléluia. Et maintenant dans le parvis là, il y a des étapes. Alléluia. Il y a l'autel des holocaustes. Il y a la cuve des reins. Alléluia. Et les étapes. Avant de rentrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint encore. On l'a lu tout à l'heure. Dans Hébreu. Il y a des étapes. On va les lire ensemble. Alléluia. Quelles sont les étapes qu'il y a dans le lieu saint? Lisons ensemble. Hébreu chapitre 9. On va lire à partir du verset 1. Alléluia. Amen. C'est bon mon frère. Merci. Donc dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Il y avait la table, les pains de proposition. Donc le chemin qui va te mener jusqu'au lieu très saint, il y aura des étapes. Au niveau du parvis, tu vas avoir l'autel des holocaustes. Après tu vas avoir la cuve de reins. Quand tu vas rentrer dans le lieu saint, tu vas avoir le chandelier. Tu vas avoir la table des pains de proposition. Alléluia. Tu vas encore avoir quoi d'autre? Tu auras la table, tu auras les pains de proposition. Donc tu auras le chandelier, la table et les pains de proposition. Mais jusque là, tu n'es pas encore rentré dans le lieu très saint. Tu n'es pas encore rentré. Mais pendant que tu seras en train de fondre, tu penses réellement que le diable va te laisser tranquille? Parce que là, tu es en train de... Quand on parle des dimensions dans la louange et l'adoration, hein, le thème qu'on a eu la semaine, il y a 15 jours, que le pasteur Nialisette Mabodi a développé. Les différentes dimensions de la louange et l'adoration. Par rapport au tabernacle, c'est toutes ces étapes-là que vous devez franchir. Pas à pas, l'autel des holocaustes, la cuve de reins. Après, on rentre dans le lieu saint. Après, on a quoi? Après le chandelier, on a la table. Après, les propositions. Étape par étape. Et vous croyez que durant toute cette marche-là, le diable va vous laisser tranquille? Il va essayer de combattre le parcours et le déroulement ministère de louange de votre service. Et pour cela, vous avez besoin de la verge d'Aaron pour manifester et affirmer l'autorité spirituelle dans votre ministère, afin de ramener toute conscience à l'obéissance, afin de ramener toute pensée captive à l'obéissance à Christ, concentrée dans la présence de Dieu. Alléluia. À un moment donné, vous allez avoir besoin de prendre l'autorité sur les circonstances et sur les situations dans la vie des gens, par rapport à des blocages. Quelqu'un qui n'arrive pas à adorer le Seigneur, parfois tu seras conduit à exercer l'autorité spirituelle pour le débloquer, pour le détacher, pour le libérer, afin qu'il rentre dans la louange, l'adoration. Alléluia. Et pour cela, tu as besoin de la verge, la ronde qui a fleuri. Alléluia. L'arche de l'alliance, le symbole de la présence de Dieu, son peuple. Nous avons besoin de la présence de Dieu, et pour cela, il nous faut revenir aux valeurs et aux principes qui restaurent la présence de Dieu dans l'Église, afin que l'Église ait de l'éclat, ait un impact. Et Dieu compte sur vous. Les chants.